La chaussure rouge en radio.
...2019 est déjà bien entamé, mais c'est dans les frimas hivernaux de ce mois de février que la chaussure rouge en radio démarre une nouvelle saison avec une invitée, Pascal Derme, avec qui nous allons aborder l'écoféminisme et découvrir la merveilleuse pratique des bains de forêt. Autour de la table, les pieds dans la neige, il y a Julie, Ariane, Lucien et Patrick pour la réalisation. Bienvenue à bord. Bonsoir Ariane.
Mais bonsoir tout le monde.
Bonsoir Julie.
Bonsoir.
J'ai dit que j'ai fait dans le bon ordre, j'ai de gauche à droite, c'est beaucoup plus simple. Et bonsoir Lucien qui est à ma droite.
Bonsoir à toutes et à tous.
Exceptionnellement, je suis totalement perturbé parce que d'habitude il est à ma gauche. Ce soir, Pascal Derme est notre invité. Nous allons la rejoindre dans quelques instants pour évoquer une heure durant jusqu'à 21h. D'une part, ce côté écoféminisme, aussi sa partie littéraire, parce qu'elle a écrit un livre, sauf erreur, Julie. Je ne dis pas de
plusieurs bêtises.
Livres. Mais... même en l'occurrence. Et pour planter le décor, eh bien, je vous propose là tout de suite de découvrir le portrait de notre invité de ce soir, signé comme à chaque fois de la douce plume de Julie.
Elle semble avoir une passion pour les humains, la nature et les arbres. Ça tombe bien, les bains de forêt, c'est notre thème du jour. Enfin, pas seulement. Pascal Derme est une journaliste, auteure et réalisatrice spécialisée dans les questions environnementales. Elle a notamment travaillé avec la Fondation Nicolas Hulot, avec Yann Arthus Bertrand ou Oshuaïa TV. En 2010, elle publie le livre « Se régénérer avec la nature », une thématique qu'elle poursuit aujourd'hui avec la diffusion d'un documentaire sobrement intitulé « Natura ». Son dernier livre, quant à lui, porte le titre de « Sœur en écologie », un ouvrage dans lequel elle brosse le portrait de femmes qui ont fait avancer la pensée et l'action écologique. Mais que l'histoire a oublié. Elle explique comment l'engagement des femmes pour l'écologie et le renouveau féminin d'aujourd'hui est pour elle actuellement l'un des domaines les plus porteurs d'espoir. Nous sommes très heureuses et heureux d'accueillir Pascal Derme. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Mais je vous en prie.
Alors, pour entamer la soirée, on voulait parler de votre actualité. Donc, votre actualité, c'est la sortie de ce nouveau film qui s'appelle Natura. Et dans ce film-là, vous faites un tour du monde, vous allez du Japon en Suède, en passant par la France, les États-Unis et le Canada, pour comprendre comment le lien avec la nature a des effets positifs sur la santé des êtres humains. C'est un thème que vous aviez déjà exploré dans un livre, « Se régénérer avec la nature ». Et moi, je me demandais pourquoi vous avez voulu en faire un film. Est-ce que vous n'aviez pas encore suffisamment exploré le sujet? Il y avait d'autres éléments que vous vouliez mettre en lumière?
Alors exactement. C'est vrai qu'en 2009, quand j'ai commencé l'enquête de se régénérer grâce à la nature, j'ai été surtout voir des personnes qui avaient décidé dans leur pratique de rejoindre la nature, soit qu'elles voulaient vivre au contact de la terre, dans la forêt, en autonomie, soit qu'elles voulaient faire du jardin thérapeutique dans un hôpital, comme à la Pitié-Salpêtrière, soit qu'elles avaient décidé de rétablir un lien entre nature et culture à la montagne, en reconstruisant ou en réaménageant un chalet. Bref, il y avait tout un tas d'expériences, mais quand je demandais à ces personnes pourquoi elles se sentaient si créatives ou si heureuses ou si joyeuses dans la nature, eh bien, ces personnes n'avaient tout simplement pas de réponse objective. On me disait, c'est comme ça, je me sens bien, je me sens joyeuse. Et moi, j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait derrière cette expression-là, je me sens bien dans la nature. Parce que c'est une évidence pour beaucoup de nous qu'on se sent effectivement bien et plus à l'aise et plus calme, mais aussi plus stimulé dans la nature. La question, c'est pourquoi? Et j'ai mis 10 ans finalement à enquêter sur ce pourquoi. Et le film d'aujourd'hui, Natura, donne quelques éléments de réponse à cette question. Pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux? Mais pour ça, il a fallu 7 ou 8 ans d'enquête, 2 ans de tournage et de montage, et trouver les bons producteurs qui pourraient me suivre dans cette aventure qui n'a pas été facile. Mais finalement, on a trouvé les meilleurs scientifiques sur la question. Et on s'est promené du Japon, en Allemagne, au Canada, Quand je dis promener, c'est une expression parce que, en fait, on a été voir les scientifiques les plus pointus dans leur domaine, des neuroscientifiques, des biologistes, des médecins, et on a commencé le tournage au bain de forêt, puisque c'est au Japon qu'effectivement, les bains de forêt sont nés dans les années 80.
Donc, dans le film, vous expliquez qu'il y a des études sur ce thème-là, sur le lien entre le lien avec la nature et la santé. Des études existent déjà depuis une vingtaine d'années, mais en revanche, ces dernières années, elles se multiplient. Les scientifiques montrent confirme cette intuition qu'on a que la nature nous fait du bien. Quelles sont les études qui le prouvent? Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-unes?
Oui, alors je vais vous en citer quelques-unes, bien sûr, avec plaisir. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que effectivement les chiffres sont assez parlants. J'aime bien citer cette progression. Dans les années 90, il y avait 3 ou 4 études sur le sujet nature et santé. Étudié par avec des éléments objectifs il y en avait une cinquantaine au début des années 2000, et c'est là que ça a vraiment explosé. Aujourd'hui, il y en a plus de 350 ou 400 qui vont de l'étude de l'impact de la nature contre l'obésité, ou de l'effet de la nature contre le stress, ou contre l'hyperactivité des enfants. Voilà. Et donc ça s'est étudié actuellement dans les universités les plus prestigieuses du monde, à Oxford, à Harvard, dans des instituts spécialisés où nous sommes allés aussi avec des laboratoires de pointe. Donc tout ça pour dire que ce qui était encore considéré comme un sujet assez trivial et ordinaire est considéré avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Ça m'amuse parce qu'il y a des scientifiques, notamment le scientifique suédois Terry Harty, qui est spécialiste en psychologie environnementale, qui m'a dit, quand j'étudiais le sujet sur la nature et la santé dans les années 80, il était à Berkeley, mes collègues me disaient, mais qu'est-ce que tu vas t'ennuyer à étudier la nature? C'est évidemment que tout le monde, que ça fait du bien, hein. Qu'est-ce que tu vas chercher? Nous, on étudie les biotechnologies, on étudie des sujets vraiment sérieux, mais toi, avec ta nature, tu nous fais rigoler. Et aujourd'hui, 25 ans ou 30 ans après, ses collègues le regardent avec beaucoup plus de sérieux. Donc voilà, c'est pour dire que c'est un sujet, et nous sommes tellement privés de nature, je pense qu'on y reviendra, que ce sujet-là de la nature et de la santé devient tout à fait sérieux et même assez urgent. Alors parmi les études scientifiques que j'ai pu trouver, il y en a tout un tas. Il y a celles qui sont... Au Japon, les premières ont prouvé que la nature renforce notre immunité naturelle. Donc ça, c'est des études qui ont été faites par le professeur King Lee et Miyazaki aussi. Donc ils montrent que la nature booste nos cellules natural killers, qui sont les cellules qui sont des lymphocytes qui protègent notre organisme. Et le nombre et l'activité de ces cellules est augmentée de 50% après seulement 3 jours et 2 nuits en forêt. Donc ça, c'est des études très sérieuses. Il y a d'autres études très sérieuses, toujours au Japon, qui montrent que la nature, la fréquentation de la nature rééquilibre tous nos paramètres physiologiques, le pouls, le cœur, la circulation du sang dans le cortex préfrontal. Donc ces personnes qui ont besoin d'une stimulation voient leurs paramètres augmenter et les autres voient leurs paramètres diminuer. Il y a des études aussi très scientifiques qu'on a filmées à Stanford qui montrent que la nature agit contre la dépression et les pensées ruminatoires. Il y a d'autres études aussi très, très intéressantes qui montrent que la nature peut restaurer et régénérer l'esprit et l'aider à lutter contre la fatigue mentale. Il y a d'autres études qui montrent que la vue de la nature dans les hôpitaux aide les patients à guérir plus vite et avec moins d'antidouleurs que les patients qui ont des chambres sur des murs. Il y a d'autres études qui permettent d'affirmer que la nature, la fréquentation de la nature aide les enfants à lutter contre l'hyperactivité et contre l'obésité. Voilà, donc il y a tout un tas de... Tout ce que je viens de vous citer est abordé soit dans mon livre, soit dans le film. Il y en a encore tout un tas d'autres qui montrent que la nature nous régénère, lutte contre le stress, lutte contre la dépression, restaure notre équilibre.
Donc, c'est vrai qu'encore chez nous, parfois, les gens qui vont enlacer les arbres, quand on parle de bains de forêt, parfois, les gens qui font ça sont considérés un peu comme des hurluberlus ou alors des hippies. Alors que là, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment des scientifiques qui prouvent vraiment ce lien entre bien-être et lien avec la nature. Je voulais revenir justement à votre séjour au Japon et puis la pratique du Shinrin-yoku, ça se prononce comme ça, bain de forêt?
Oui, Shinrin-yoku.
Shinrin-yoku, d'accord, pardon.
C'est ça.
Donc c'est quelque chose de très très populaire au Japon, si bien qu'en fait on a dédié des forêts à cette activité-là, on protège la forêt pour que les gens puissent venir s'y baigner, entre guillemets, puissent venir s'y régénérer.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cercle vicieux, un cercle vertueux, justement, qui fait que, c'est l'inverse, qui fait que, non, parce que ça me fait penser, votre expression, se baigner dans la forêt. Moi aussi, au début, je pensais qu'un bain de forêt était en fait une source d'eau chaude, hein, comme il y a beaucoup au Japon, et que les gens se baignaient dedans. Mais en fait, non, je vais vous expliquer. Donc, le Japon a été très, très connu des déforestations massives dans les années 40, 50, 60, 70. Et il y a eu une déforestation massive. Et dans les années 80, il y a eu 67% de la surface forestière qui a été coupée et détruite. Donc, dans les années 80, l'Agence forestière des Japon a mis le holà en disant « Holà, si on continue, on n'aura plus aucun arbre ». Donc, ils ont lancé une campagne pour inviter les Japonais à retourner dans la forêt, à se réconcilier, à renouer leurs liens émotionnel ancien avec la forêt. Le shintoïsme, qui est très prégnant au Japon, pose déjà d'emblée cette relation spirituelle, quasi spirituelle, spirituelle avec la nature et en particulier avec les arbres. Donc les autorités ont dit aux Japonais, retournez dans la forêt, ça va vous faire du bien et ça va éviter qu'on ne coupe trop les arbres. Donc là-dessus se sont greffées ces études scientifiques sur les bains de forêt, qui sont des études qui montrent qu'une marche très lente en respirant posément dans la forêt, permet tous ces paramètres physiologiques dont je parlais à l'instant de se réguler, le pouls, le cœur, la circulation du sang dans le cerveau. Voilà, il y a un effet anti-stress. Donc, ces scientifiques comme le professeur King Lee ou Yoshifumi Miyazaki ont montré que ces effets des bains de forêt étaient réels. Et dans les forêts où on a pu mesurer, où les scientifiques ont mesuré ces effets sur le corps, eh bien, ces forêts sont classées en site de Shinrin-yoku. À condition, bien sûr, que des études, hein, c'est un protocole très exigeant, aient pu montrer que les arbres dans ces massifs-là ont des effets sur tous ces paramètres et en faveur de l'immunité naturelle aussi. Ça veut dire qu'elles doivent avoir des arbres qui émettent en particulier des phytoncides, qui sont des molécules aromatiques qui agissent sur l'immunité naturelle et qui augmentent les lymphocytes et la protection naturelle du corps.
Est-ce qu'on pourrait expliquer ces phytoncides aux auditeurs, peut-être comment ça fonctionne, pourquoi les arbres émettent les phytoncides, c'est très intéressant.
Oui. Alors donc ce que je disais, c'est qu'en fait c'est des molécules aromatiques, hein, qui sont des terpènes bien souvent et qui sont des molécules qui sont émises par les arbres pour se protéger contre les infections, contre les bactéries, contre les champignons. Donc, c'est des molécules qui sont souvent émises quand il y a des épisodes d'attaque, donc manifestement beaucoup l'été et quand c'est assez humide. Et ces molécules aromatiques qui protègent les arbres, eh bien, elles nous protègent nous aussi. C'est ça qui est assez merveilleux. Et c'est des molécules donc que les arbres émettent pour se protéger, pour se défendre des infections. Eh bien, quand nous le respirons, ces phytoncides renforcent notre protection à nous humains aussi. Donc ça, c'est pas émis par tous les arbres et c'est pas émis à toutes les saisons et c'est pas émis à tout moment de la journée. C'est plutôt le matin, c'est plutôt quand il fait chaud l'été, plutôt humide quand il y a les attaques justement et surtout par des résineux. Mais les feuillus en émettent aussi. Donc les forêts dont on peut prouver, et ça se prouve, hein, ces molécules aromatiques, elles sont captées, elles sont analysées par les scientifiques. Certaines en ont. Donc, c'est là où il y a le plus de résineux ou des arbres qui émettent ces phytoncides et d'autres en ont moins. Donc, à partir du moment où une forêt émet ces phytoncides et qu'elle a des aménagements qui permettent aux personnes d'aller marcher lentement dans la forêt et que ces effets ont été prouvés, eh bien, c'est un site de Shinrin-yoku. Et après, il y a des spécificités, des petites habitations pour que les gens puissent y passer du temps, de la poterie, des sources d'eau chaude. Ça dépend après des massifs, mais il y en a 63 sites de forêt Shinrin-yoku dans tout le Japon et ça va continuer du nord au sud du pays et quand ces forêts sont sites de Shinrin-yoku, évidemment elles sont classées. Donc on revient sur notre cercle vertueux. Il y a eu une alerte parce que les forêts étaient détruites, on a créé les sites de Shinrin-yoku, les gens peuvent bénéficier de tous ces avantages des pouvoirs de l'arbre sur la santé et en retour, puisqu'elles ont ces pouvoirs, les forêts sont protégées. Vous voyez ? Donc, la boucle est bouclée d'une certaine façon. Mmh. Et les Japonais sont plus de 3 millions à fréquenter ces sites. Ça connaît un succès fou. Moi, j'en ai visité 2 ou 3 au Japon. Et je peux vous dire que les gens sont vraiment ravis. Et c'est pas seulement enlacer un arbre, hein, à Shinrin-yoku. On est un peu dans un effet de buzz médiatique, là, avec ces histoires de tree hugging. Mais Comme vous avez compris, le bain de forêt va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est vraiment des marches où on respire, où on capte l'énergie des arbres. Et ce que me disent les scientifiques, c'est qu'il faut rester 3 jours et 2 nuits, donc une durée relativement longue, pour capter et pour que cet effet sur l'immunité de 50% de plus de cellules natural killers soit visible. Par contre, une fois que ces effets sont visibles, ils peuvent rester jusqu'à 1 mois après le Shinrin Yoku. Donc, c'est pas rien. Il suffit, en gros, de réactualiser votre petit parcours dans la santé tous les mois pour avoir une immunité au top.
Ce qui est intéressant voilà. Dans votre film aussi, on voyait que pour générer ces phytoncides, il s'agissait de caresser ou de toucher le tronc des arbres.
Alors ça, c'est le guide forestier qui le montre. Il faut savoir que les sites de forêt de Shinrin Yoku ont mis des guides à disposition pour aider les personnes à respirer, à faire des beaux mouvements. Effectivement, dans mon film, on montre que le guide, de façon très amusante, il tapote l'arbre et il explique que ça fait du bien aux arbres et que comme ça, les phytoncides peuvent descendre. Bon, voilà, c'est ça, c'est le propos du guide. Hein. C'est pas un propos de scientifique. Mais en tout cas, on peut toucher ces arbres parce que qu'il faut savoir, vous avez raison Lucia, c'est que toute l'atmosphère de la forêt est impliquée. C'est pas seulement les arômes. En fait, c'est à la fois ce qu'on peut toucher d'un arbre qui nous fait du bien, qui nous rassérène, c'est ce qu'on ressent, les arômes, on en a parlé, et c'est aussi la vue des couleurs de l'arbre, et c'est aussi ce qu'on peut sans entendre. Le son a aussi un effet très important. C'est pour ça que il y a beaucoup de sites de Shinrin Yoku au Japon qui sont à côté de cascades ou de lacs ou de forêts. Et le son est très important pour avoir cet effet aussi anti-stress.
Et c'est pourquoi Patrick nous a préparé un petit son de forêt pour nous accompagner ce soir.
Ça nous fait du bien.
Oui, exactement, je crois.
Et moi, je vous propose de prendre une petite respiration musicale, le temps de s'installer, au pied d'un arbre, évidemment. Le morceau que l'on a choisi ici, c'est pas tellement par rapport à son titre, mais bien par rapport à son auteur. C'est un groupe de 1991 qui faisait dans la musique du monde, le New Age et la musique électronique. Ça s'appelait Deep Forest, et voici Sweet Lullaby. Thank you. Sweet Lullaby, Deep Forest à l'instant, dans la chaussure rouge en radio. Deep Forest, un groupe de 1991, donc créé à l'époque par Eric Mouquet et Michel Sanchez. On poursuit notre bain de forêt, dans la forêt de la chaussure rouge en radio, en compagnie de notre invité Pascal Derme, et avec toute l'équipe qui est là, Ariane, Lucien et Julie.
Pascal, vous expliquiez que pour qu'une forêt soit classée... Shinrin-yoku, elle doit répondre à un certain nombre de critères. Et puis, je me demandais s'il y a du coup des essences d'arbres plus bénéfiques que d'autres, et si ces arbres qu'on retrouve au Japon sont aussi présents dans nos forêts en Europe.
Oui, alors les arbres qui ont été classés comme étant les plus émetteurs de phytoncides, hein, ces molécules aromatiques qui boostent notre immunité naturelle et qui nous font du bien, c'est au Japon, par exemple, le cyprès inoki, ou le cèdre japonais aussi. Donc ça, ce sont des là-bas, ou le sugu aussi. C'est un arbre qui est japonais. Donc ces arbres-là sont classés comme étant les plus émetteurs en phytoncides, à tel point que les scientifiques essayent aussi de travailler sur les huiles essentielles qu'ils émettent, pour voir si les effets des bains de forêt par hasard pourraient être reproduits dans des hôtels ou dans des établissements intérieurs. Donc, ils ont fait cette étude-là et ils se sont rendus compte que non. Oui, il y avait des effets des huiles essentielles de ces arbres-là, le cyprès inoki et le cèdre japonais, quand ils sont émis dans une chambre, par exemple, le sommeil des personnes est amélioré, le stress est réduit. Mais cela n'a pas autant d'effet sur l'immunité qu'un un vrai bain de forêt dans la nature. Donc je fais cet aparté parce que on est assez loin encore de pouvoir dire qu'on va mettre la forêt dans un bocal, okay, et avoir les mêmes forêts que les mêmes effets que dans la forêt. C'est vraiment important de capter cette atmosphère, toute l'atmosphère de la forêt en y allant physiquement. Après, en France, on n'a pas encore de fait d'études sur les sites de bains de forêt. Donc, j'ai du mal. Alors, en Suisse, est-ce que vous en avez des sites de bains de forêt ?
Non, à ma connaissance, pas de, pas de lieu désigné comme ça.
Non,
je
voilà,
sais que des groupes organisent ça. Ça se fait des événements. J'ai vu ça, mais en revanche, ouais, je pense pas qu'il y a de ou parc naturel désigné pour les, alors, des endroits pour les bains de forêt. Non.
Les Suisses se baladent encore beaucoup naturellement.
Oui, mais moi aussi, je me balade beaucoup naturellement. Et donc, ce qui effectivement, les gens sont incités à aller se promener. On n'a pas besoin de faire des analyses de la forêt pour aller se promener dans la forêt et pour respirer. Mais simplement, par rapport à votre question, pour savoir quels sont les arbres qui mettent le plus, s'il n'y a pas eu vraiment d'études sur ces sites, je pourrais pas vous répondre.
Parce que des cyprès gnocchi, il n'y en a pas chez nous, dans nos forêts ou les cèdres japonais.
Il y a des cyprès, par contre. Est-ce que vous avez des cyprès ? Est-ce que vous avez des résineux ? Est-ce que vous avez des pins ?
Oui, oui.
Est-ce que vous avez des cèdres ? Donc, voilà. Donc, si ce n'est pas du tout la même essence, pas tout à fait la même variété, ça n'est pas, à mon avis, important. Ils se sont rendus compte que les résineux émettaient plus de phytoncides. Donc, si vous avez des résineux dans les forêts de pins, dans les forêts de résineux que vous avez, de sapin, eh bien, vous pouvez. Est-ce que, de toute façon, on peut les sentir. C'est des arômes un peu citronnés. Vous pouvez vous-même les sentir, les phytoncides, les limonènes. Et ce sont des petits arômes de citron comme ça qui sont tout à fait perceptibles. Donc, quand vous ressentez cette odeur-là, eh bien, vous êtes sûr que vous pouvez bien respirer. Ça va vous faire du bien. Et nous, en France, on n'a pas non plus encore vraiment eu de site comme ça classé bain de forêt. J'y travaille à vrai dire, mais on doit faire des études. Vous voyez, on est un peu loin quand même de la mode et du buzz avec les Japonais. C'est-à-dire que faire des bains de forêt, par exemple, en hiver, ça a pas vraiment d'intérêt à part de lutter contre le stress parce que les phytoncides, ils sont surtout émis l'été. Donc, il y a tout, si on réfléchit vraiment à ce que c'est qu'un bain de forêt avec des effets qui sont prouvés et qu'on peut ouvrir un dialogue avec les médecins à ce sujet-là, il faut être un petit peu sérieux dans la démarche. Et bon, c'est pour ça que nous, on a voulu faire un film scientifique, mais sinon, aller marcher dans la forêt, et de toute façon, ça ne peut pas vous faire du mal. Au contraire, il y a tout un tas d'émerveillements qu'on peut avoir dans la forêt et qui vont bien sûr opposer une barrière contre le stress très, très, très utile dans nos vies un petit peu malmenées.
Donc là, on a parlé des phytoncides, mais dans votre film, vous allez aussi à la rencontre de scientifiques en Suède et aux États-Unis qui expliquent qu'en fait, la simple vue de la nature permettrait de calmer l'activité mentale et puis de régénérer l'attention. Dans votre film, vous parlez de nature, vous parlez surtout des plantes, des arbres, mais je me demandais qu'en est-il des cours d'eau, des animaux, des roches. On utilise parfois ce terme de nature, mais qu'est-ce qui comprend ? Est-ce que si on regarde une roche, un cours d'eau, est-ce qu'on est proche des animaux ? Est-ce que là, oui, ça entre aussi dans ces éléments qui peuvent régénérer notre attention, qui peuvent nous calmer et nous faire du bien ?
Alors, vous savez, on a été obligé de choisir un angle. Mm-hmm. Vous avez vu que le film est déjà très dense, scientifiquement, oui, parce que, comme vous le disiez, on va dans 7 ou 8 pays différents, et j'ai gardé tous les scientifiques qui m'avaient parlé. On est très dense, et donc on a anglé, nous, sur le végétal, les arbres, parce que les bains de forêt sont nés au Japon, et c'était sur des arbres, et sur la nature plutôt végétale. Alors après, Natura 2 et Natura 3 sont déjà écrits. On a effectivement les animaux qui nous attendent, parce que tout ce qui est équithérapie, ronronthérapie, le travail avec le cheval est très important sur la nature qui soigne. Mais on a aussi des personnes qui vont nager avec des dauphins. Et j'ai eu la chance de faire un reportage aux Açores avec Frédéric Pichard qui va nager et qui emmène les personnes nager avec les cétacés aux Açores. Et c'est absolument merveilleux pour les personnes qui y vont, qui sont dépressives ou qui ont des problèmes de confiance en eux, etc. Le travail avec les chevaux, l'équithérapie et de notoriété aussi publique, ça fonctionne bien. Donc il y a tout un tas d'autres éléments à donner. Mais nous, d'une part, on s'est concentré sur les pays et les chercheurs qui avaient des éléments scientifiques à nous donner sur la nature. Hein, donc vous avez compris qu'on n'a pas été voir juste les gens qui disaient « ça fait du bien ». Parce que ça, sinon, la naturopathie le fait depuis très très longtemps, les personnes qui travaillent avec les huiles essentielles aussi. Donc là, on a été voir les personnes qui avaient étudié l'expérience de la nature sur la santé et sur de la nature végétale. Et quant à l'environnement bleu, je me suis posé la question aussi, et j'en parle davantage dans mon livre, qui va paraître au Lien qui libère en mai, sur le même sujet, qui va s'appeler Natura aussi, parce que l'environnement bleu, il a été peu étudié en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait, quand les chercheurs font des études sur pourquoi l'environnement nous fait du bien, ils partent d'un paysage naturel et qui comprend bien souvent, comme vous dites, des ruisseaux, des lacs, des rivières, du bleu finalement. Mais cet environnement bleu, il n'est pas mentionné en tant que tel. Alors, quand les personnes répondent, par exemple, « oui, ça fait du bien, c'est tel ou tel paysage », on se rend compte qu'il y a souvent de l'eau aussi, parce que c'est une mosaïque de paysages avec du vert, du bleu en général. Dans la nature, il y en a beaucoup. Mais il n'a pas été identifié en tant que tel, cet environnement bleu, sauf dans des études en Angleterre, où quand on demande aux personnes les types d'environnement dans lesquels ils se sentent le plus heureux, systématiquement, ils répondent le rivage, le littoral ou la proximité des lacs et des rivières. Et c'est un peu les seuls où on peut avoir ce type de renseignement.
D'accord, je vous remercie. Je voulais juste revenir à cette idée que la simple vue d'un paysage naturel calme l'esprit, calme l'activité mentale. Et puis, un scientifique explique dans votre film que si on se branche en fait sur une certaine onde, on peut régénérer notre attention. Est-ce que ça fonctionne un peu comme la méditation ?
Alors, oui, ça fonctionne un peu comme la méditation, c'est-à-dire que, mais avec les éléments de la nature en plus. C'est-à-dire, les expériences parlent, les scientifiques, et notamment vous faites allusion à Terry Artik en Suède, qui est psychologue environnemental, ils ont un concept tout à fait intéressant de considérer l'être humain dans la globalité de son environnement. Souvent, en psychologie ou en psychanalyse, on vous parle de vous, on vous parle de la famille autour de vous. Si vous avez un peu de chance, on vous fait parler de vos amis, des relations autour de vous, mais très, très rarement de l'environnement dans lequel vous êtes, l'environnement dans lequel vous habitez. Pourtant, ça coule de source, moi, je dirais. Mais c'est cette corrélation ou cette symbiose avec l'environnement, ou c'est au contraire, ce que ça génère d'avoir un environnement détruit, dégradé, pollué, ça rentre rarement en ligne de cause. Donc la psychologie environnementale, elle fait l'inverse. Elle considère l'être humain dans son cadre global et elle cherche à comprendre pourquoi la relation avec l'environnement, avec la nature, nous fait du bien et Noura Seren. Et donc, ils ont une expression qui s'appelle l'expérience de nature, qui est de considérer que on apprend du monde par l'expérience, c'est-à-dire par les sens. Et c'est pas au-delà du fait de dire que la nature est belle, qu'elle est jolie. Ils se posent la question de savoir comment la nature elle-même nous impacte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un coucher de soleil? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que c'est que la vue des vagues justement de l'océan ou la vue d'une forêt? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Comment ça agit sur nous? Et alors ils ont découvert, et ça c'est depuis les années 80, ça c'est un couple qui s'appelle Rachel et Stéphane Kaplan aux États-Unis, que quand notre cerveau, quand nous contemplons la nature, ils ont découvert ça avec les premiers électroencéphalogrammes de l'époque, quand nous contemplons la nature, un paysage, le cerveau se branche sur une longueur d'onde alpha qui met notre cerveau en veille et qui permet à l'attention dirigée, celle qu'on utilise par contre pour travailler, pour faire des choix, pour se concentrer, eh bien cette attention-là dirigée, elle se met en veille et le cerveau switch et se met dans une attention non dirigée que la nature stimule. C'est-à-dire vous ne dormez pas, mais vous êtes sur une longueur d'onde qui permet à votre cerveau de contempler, d'être actif, mais sans se fatiguer, sans effort. Et ils appellent ce terme, d'une expression que je trouve très jolie, qui est la fascination douce. Et cette fascination douce, quand vous contemplez, par exemple, là dans le film, on a un bois de bouleau pour expliquer ça, ou quand vous contemplez, par exemple, une prairie qui ondule sous le vent, ou des bosquets avec des formes, des couleurs, ou un coucher de soleil, comme je vous le disais, ou des fleurs, des parterres de fleurs, ça sollicite votre attention, ça vous met sur une longueur d'onde qui n'est pas encore une fois du sommeil, c'est un état de veille, mais qui est stimulé par les couleurs de la nature, par les odeurs, par les sons. Donc, c'est pas tout à fait la même chose qu'en méditation, dans le sens où, comme vous savez, la méditation, vous êtes censé laisser passer toutes ces idées, toutes ces pensées qui pourraient vous assailler, vous les laissez passer. Vous ne les accrochez pas. C'est plutôt l'idée de faire le vide et d'être dans un état de disponibilité. Là, avec la fascination douce et la nature, cette histoire de nature, au contraire, vous pouvez solliciter vos sens pour être fasciné par la nature, mais ça permet de lutter contre la fatigue mentale parce que ça ne sollicite pas votre attention dirigée. Est-ce que je me fais comprendre?
Oui, oui, on peut aussi voir dans votre film que le toucher a également cette fonction-là. Parce qu'on touche un morceau de bois ou un morceau de métal, c'est totalement différent. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler aussi.
Oui, le toucher. Alors, pour terminer sur la fascination douce, ils appellent ça le processus, ça nous restaure, ça nous régénère. Et dans le film, on voit une étudiante qui fait des tests, qui se fatigue, donc en condition de travail. Et le scientifique l'envoie marcher ne serait-ce qu'une demi-heure dans la nature. Et son attention, donc sa fascination douce opère. Elle observe les forêts, elle observe le vent, elle se laisse capter. Et les petits sons, des petits oiseaux, etc. Et quand elle refait les tests de concentration, eh bien, elle se rend compte que sa capacité à mobiliser sa concentration est complètement régénérée. Elle refait les tests très, très vite, elle ne fait plus d'erreurs. Donc ça, c'est la restauration mentale que la nature permet. Je trouve que c'est très utile pour tout le monde quand on travaille. Le fait d'avoir un arbre sous les yeux devant son bureau, une forêt, bah, il suffit de le regarder, la simple vue permet au cerveau de débrancher et une succession de micro-pauses comme ça pour permettre de lutter contre la fatigue mentale. Maintenant, sur le toucher, Lucien, c'est vrai que ça renvoie à nouveau à une séquence où on retourne au Japon. On fait des allers-retours comme ça entre la Suède, le Japon et bientôt, vous allez m'emmener en Allemagne avec le neuroscientifique. Mais le japonais, il a dans son laboratoire essayé de reconstituer les différents sens parce qu'ils essayent de savoir, toujours pareil, qu'est-ce qui marche le mieux. Est-ce que c'est le son? Est-ce que c'est l'odeur? L'odeur, on en a parlé avec les phytoncides, mais voilà. Et ils essayent d'isoler en fait un petit peu les différents sens et voir qu'est-ce qui fonctionne le plus. Mais c'est très différent selon les personnalités. Vous n'avez pas les mêmes sens. Votre sens ne fonctionne pas de la même façon que les miens, etc. Bon, donc moi je serais un peu sceptique sur ces expériences-là, mais ce qu'ils ont démontré sur le toucher, c'est que toucher du bois brut calme davantage, et ça ils le mesurent dans le cerveau en analysant l'activité cérébrale et donc le stress, et bien toucher du bois brut, ça calme mieux, ça régule la tension artérielle mieux que du métal. Et ça marche encore mieux si c'est du bois brut et pas verni. C'est-à-dire que toucher vraiment le matériau brut du bois, c'est ce qui a l'effet le plus rassurer dans. Et vous le voyez bien quand vous habitez dans des maisons en bois. Moi, j'ai une maison en bois. Et cette odeur des bois, la contemplation du velouté du bois, des parquets, eh bien, c'est pas seulement une vue de l'esprit. Ça génère vraiment un calme mental, une baisse de la pression artérielle et une régularisation du pouls, donc des battements cardiaques. Donc voilà, ça confirme une évidence finalement qu'on a.
Tout à fait.
Mais certaines évidences sont bonnes à dire parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont tentées peut-être de pas construire en bois ou de pas aller dans la nature parce qu'elles elles n'ont pas conscience de ces effets-là. Et comme on vit dans une société en ville quand même où les gens sont très coupés de la nature, et bien si on leur explique patiemment tout ce que la nature de bien leur fait de bien, eh bien, ça peut les inciter. Et il faudrait que ça les incite. On aimerait que ça les incite. C'est notre utopie. À retourner dans la forêt.
Parce qu'on le voit aussi dans le film, au niveau de l'amygdale du cerveau, oui. Entre la ville et la campagne, c'est assez ahurissant de voir la différence, l'hyperactivité de cette amygdale.
Oui.
Qui est l'amygdale de l'anxiété.
Alors là, vous en avez en Allemagne, j'en étais sûre.
Comment... Oui, c'est ça. Je sais plus où j'en suis, moi.
Oui,
mais
c'est ça.
Non, mais on voyage, c'est vrai. Et chaque pays a d'ailleurs ses représentations très différentes de la nature. Il faut en tenir compte aussi, c'est intéressant. En Allemagne, on n'est pas du tout le shintoïsme. On est avec un neuroscientifique, tout ce qu'il y a de plus carré. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de tradition là-bas. Il y a le romantisme allemand, mais c'est très différent. Et donc, on va voir ce neuroscientifique. Effectivement, il a étudié, c'est le premier au monde, il s'appelle le professeur Meyer Lindenberg. Il a pu comparer les effets de la vue de la nature versus de la ville, du mode de vie urbain, sur le cerveau et en particulier sur l'amygdale, qui est le centre de la peur, de fight or flight. Quand vous pouvez ni fuir ni vous battre, c'est des réminiscences de nos cerveaux anciens, eh bien vous êtes censé serrer les dents et supporter le stress. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui vivaient dans une petite ville, en milieu rural, n'avaient pas du tout d'activité de ce centre de la peur de l'amygdale. Les personnes qui vivaient dans une ville moyenne avaient une amygdale qui fonctionnait moyennement. Et les personnes qui sont soumises toute la journée au stress dans la ville ont une amygdale qui est augmentée de 40%. Et ça corrobore en fait des chiffres qui montrent que les populations urbaines dans le monde entier connaissent des troubles anxieux qui augmentent de 30 à 40% dans le monde entier. Mais c'est pas rien. Donc, par là, il y a des troubles anxieux, des phobies sociales, des angoisses, et ça va jusqu'à la schizophrénie.
Et c'est d'autant plus intéressant. C'est d'autant plus intéressant quand on pense à nos hôpitaux, où il y a une tendance de les sortir des périphéries pour les reconstruire au centre-ville.
Oui. Alors, les hôpitaux, c'est vrai. Alors, c'est bien, d'une certaine façon, de rapprocher les gens malades de leur famille. Mais ça serait encore mieux s'ils pouvaient construire des jardins et aménager, valoriser les vues sur la nature. J'ai lu tout à l'heure que ça commence. L'hôpital psychiatrique de Metz a réaménagé tout son intérieur pour donner des vues sur les sous-bois, pour faire des patios où ils ont planté des arbres pour les patients. Et c'est ce qu'on appelle une architecture du care, c'est-à-dire qu'ils prennent soin. Et dans le film, on a été voir le pape, si on peut dire le chantre, enfin le pionnier de tout ça, qui en 1984 a publié dans Science une étude qui montrait que les patients d'un hôpital qui avait une chambre sur la vue, sur les arbres, guérissaient plus vite avec moins d'antidouleurs que des patients qui donnaient sur un mur. Et donc c'est très important de considérer ce rôle de la vue sur la nature dans les hôpitaux parce que les personnes sont immobilisées et plus fragiles, bien sûr, et plus vulnérables.
Du coup, toutes ces questions-là, enfin ces études qui ont mis en avant l'importance de ce lien avec la nature posent aussi la question du droit à l'environnement, posent la question d'une justice sociale et environnementale. Vous êtes intéressé à cette question-là et puis vous vous êtes intéressé aussi aux pionniers et notamment surtout aux pionnières, aux femmes qui se battent pour un droit à un environnement sain. Vous vous êtes intéressé aux pionnières aussi des questions environnementales.
Oui, c'est vrai que pour terminer sur Natura, quand on sait à quel point la nature et l'accès à la nature nous permet de nous sentir en meilleure santé, de lutter contre le stress, qui est quand même une maladie du siècle, contre la dépression, et surtout pour les personnes les plus fragiles, et surtout pour les personnes les plus défavorisées, qui n'ont pas de coach, de régime, etc., on se dit que l'accès à la nature est une question de justice, pour tout le monde. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès à cette nature. Et à contrario, on sait bien que dans beaucoup de pays du monde, et je pense surtout aux États-Unis, c'est dans les quartiers les plus défavorisés, les plus pauvres, que on a installé des déchets, des dépôts de déchets toxiques, que les quartiers sont les moins verts, que la pollution y est plus forte, que il y a moins d'espace vert, il y a moins de jardins, il y a donc davantage d'îlots de chaleur, combiné à un habitat malsain, c'est la triple peine. Et donc la question de la justice environnementale, effectivement, se pose beaucoup pour les plus défavorisés. Moi, j'avais envie de faire un dialogue entre les femmes et la nature et les scientifiques. Et j'avais envie de faire un seul et même sujet. Mais ça n'a pas été possible pour tout un tas de raisons, de production, ça. Donc, on me disait, c'est super, les femmes et la nature, mais pourquoi les femmes? Et quand on me disait ça, j'avais envie de partir en courant. Au bout d'un moment, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai écrit « Sœurs en écologie », en fait, avant mon film. Parce qu'un livre, c'est toujours un peu plus rapide quand même qu'un film. Ça nécessite un petit peu moins de moyens. Et que même dans la chronologie, en fait, c'était venu sur le tapis assez vite parce que je me rendais compte que les femmes étaient très engagées dans ces questions de justice sociale et écologique, justement. Il y a tout un tas d'histoires qui le racontent. Là, sur les déchets toxiques, je pense notamment à Love Canal, où cette militante s'est rendue compte qu'il y avait des déchets toxiques à côté de l'école de son enfant et qui a monté toute une campagne médiatique et qui est devenue militante, qui a créé un centre pour la justice et la santé environnementale. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, au début, moi, je suis partie d'une interrogation sur le fait qu'il y ait tout le temps des hommes, la Thoreau, Emerson, tous les hommes qui parlaient de nature. C'était vraiment, je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu aussi des femmes qui avaient pensé ces questions-là, indépendamment de le fait qu'elles soient présentes dans les associations de protection de la nature et de l'environnement et sur ces questions de justice. Est-ce qu'elles avaient aussi une place dans la pensée, dans l'histoire de la pensée sur l'écologie?
Alors avant de découvrir tout ceci, Pascal, si tu es d'accord, avant de découvrir tout ceci, on propose une petite transition qui a été préparée par Patrick. Oui. Patrick, tu veux peut-être nous en parler?
D'accord. Non, en fait, on a simplement prévu de vous parler déjà de l'émission du mois prochain, le 4 mars, parce qu'on va recevoir une autre invitée, Lucien.
Oui.
Oui, absolument.
Isabelle Delannoy.
C'est ça. Et donc, on vous a proposé ici un petit extrait du fameux film Home, histoire de vous donner envie.
Cette lointaine tache verte à la percée des nuages est la source de l'oxygène de l'air. Les 70% de ce gaz indispensable à nos poumons proviennent des algues qui colorent la surface des océans. Notre Terre repose sur un équilibre où chacun a sa place, n'existe que dans l'existence de l'autre. Un équilibre subtil, fragile, qu'un rien peut rompre. La Terre ne calcule le temps qu'en milliards d'années. Il lui en a fallu plus de 4 pour créer l'arbre. Dans la chaîne des espèces, l'arbre est un aboutissement en soi, une sculpture vivante et parfaite. L'arbre est un défi à la pesanteur. Il est le seul élément naturel en mouvement perpétuel vers le ciel. Il croît sans hâte vers la lumière dont son feuillage se nourrit. Il a hérité de cette minuscule cyanobactérie le pouvoir de capturer l'énergie lumineuse. Il l'accumule et s'en nourrit pour la transformer en bois et en feuilles. Cette matière se décompose ensuite dans un mélange d'eau, de minéral, de végétal et de vivant. Et ainsi, peu à peu, se forment les sols. Les sols fourmillent d'une activité incessante, où des micro-organismes se nourrissent, creusent, aère, transforme. Il fabrique l'humus, ce manteau fertile auquel toute vie est liée sur les continents. Que savons-nous de la vie sur Terre? Combien d'espèces connaissons-nous? Un dixième? Un centième peut-être? Que savons-nous des relations qui se nouent entre elles? La Terre est un miracle. Le vivant reste un mystère.
Cet extrait donc du film Home de Yann Arthus Bertrand, dont l'invité que nous recevrons le mois prochain, même en l'occurrence, a écrit ce texte si fort que l'on entend ici sur cet extrait. Isabelle Delanoï, donc rendez-vous le 4 mars prochain dans la chaussure rouge de la Noix, même ça se prononce. Alors on a hésité fortement sur la prononciation et ça se prononce bel et bien de la Noix. On continue avec vous, Pascal Derm, et avec la prochaine question
facile.
De Julie.
C'est plus facile,
je vous le confirme.
Du coup, dans votre film Sœurs d'écologie, que vous avez publié en 2017 aux éditions La Mer Salée, vous citez Isabelle Delannoy, vous parlez de ces femmes qui sont pionnières aujourd'hui en matière d'écologie, et puis vous dressez aussi le portrait de pionnières de l'écologie que l'histoire a oubliées. Vous avez vraiment voulu raconter, mettre en lumière leurs apports pour l'écologie aujourd'hui.
Voilà, absolument. Ça me paraît très important. J'ai donc fait cette petite recherche femmes, écologie et nature dans l'encyclopédie. Et je suis tombée sur Rousseau, reproduction et mycose. Et ça m'a pas
plu. Vraiment réjouissant.
Et ça m'a pas plu. Et j'ai trouvé ça réducteur. Où était Rachel Carson, qui a quand même écrit Le printemps silencieux, qui a réveillé l'opinion publique américaine? Où était Vandana Shiva, figure de l'écoféminisme? On va y revenir, je pense. Où était Isabelle Delannoy? Où était Lynn Margulis, même, qui a coécrit l'hypothèse Gaïa avec James Lovelock, qu'on cite toujours. Donc, en gros, je me suis dit qu'il y avait quand même une injustice et il a fallu aller les chercher, ces femmes, et les faire. Et donc, ce dont je me suis rendu compte, pour faire court, c'est que, actuellement, toutes les notions les plus intéressantes en lien avec l'écologie et à la nature, portées par des femmes, sont des idées très innovantes et inspirées par le vivant et la nature. Je pense par exemple, et qui peuvent nous aider à résoudre aussi la crise écologique et apporter des outils tout à fait nouveaux. Donc je pense par exemple au bien commun d'Elinor Ostrom, qui considère que la nature, les pêcheries et les forêts sont des biens communs et donc revisitent nos rapports à la propriété. Je pense à Isabelle Delannoy, donc avec l'économie symbiotique, qui démontre que l'économie non seulement n'est pas forcément prédatrice, mais au contraire, elle peut régénérer les milieux en lien avec le vivant et nous apporter tout un tas de solutions pour qu'on puisse jouer avec elle, co-créer des biens, co-créer de la richesse. Je pense à Valérie Cabanès avec l'écocide, qui considère que les portées atteintes à la nature, aux fleuves, aux forêts devraient être considérées comme un crime pénal contre l'humanité à l'égard des générations futures dont nous détruisons les ressources, les liens avec la nature. Et donc elle propose que l'écocide soit un crime contre l'humanité reconnu et sanctionné en tant que tel. Voilà, il y a tout un tas d'outils et qui permettent de revisiter notre rapport à l'économie, à la justice, au care, aux soins, inspirés de la nature et de son fonctionnement. Je pense bien sûr au biomimétisme aussi de Janine Carson, d'Elinor Ostrom. Voilà. Non, pardon, c'est moi qui ai un trou là. De Janine Benyus, le biomimétisme de Janine Benyus, qui considère qu'on peut s'inspirer des fonctionnements et des process du vivant, du métabolisme des espèces vivantes pour réinventer des process industriels et l'industrie. Donc voilà, c'est totalement dans la lignée et je me dis que on gagnerait à porter les messages de ces femmes haut et fort et pas uniquement toujours des messages où la nature si vous voulez, pour résumer, il faut changer notre rapport au monde vivant. Au lieu d'avoir une posture de prédation, anthropocentrée, où l'homme est au-dessus et contrôle le vivant et va puiser des ressources, eh bien, on gagnerait à avoir une posture de co-création avec la nature, d'inspiration avec la nature, de guérison de la nature, de replanter des arbres comme l'a fait Wangari Maathai, qui a eu le prix Nobel de la paix pour ça. Et ça, ce sont des approches qui ne sont pas des approches liées à l'histoire de l'homme sur la planète.
J'aimerais justement revenir sur ce... Pardon.
Je termine juste. Oui, comme les femmes n'ont pas eu, en fait, la même histoire que les hommes, elles ont été exclues des lieux de pouvoir, elles ont été exclues des lieux d'éducation, elles ont pas eu la même histoire que les hommes, eh bien, elles peuvent avoir ce regard oblique, ce pas de côté. Elles n'ont pas été dans le moule du capitalisme, du patriarcat, de la destruction de la nature. Or, il faut savoir que la destruction de la nature et l'oppression des femmes ont la même racine, liée à la naissance du patriarcat et du capitalisme, où l'homme s'est assuré le contrôle des éléments, comme du principe féminin d'ailleurs.
Justement, voilà. C'est ce constat qui est à la base, en fait, du mouvement de l'écoféminisme, le fait que la domination de la nature et la domination des femmes sont le résultat du patriarcat. Et vous expliquez qu'on a associé la figure de la femme à celle de la nature pour l'enfermer dans son rôle reproducteur et l'exclure du domaine de la culture, mais qu'aujourd'hui, les femmes se réapproprient ce lien avec la nature, mais pas un lien par essence, mais un lien par expérience. Est-ce que, justement, dans leur expérience de femmes, aujourd'hui, les femmes sont plus touchées par la crise écologique. Vous expliquez qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont concernés. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces différents domaines ?
Oui. Ben, vous avez tout à fait bien résumé. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les femmes se réapproprient leur relation avec la nature. Une relation qui avait été contrainte parce qu'elles avaient été cantonnées à la nature, puisqu'elles n'avaient pas le droit d'accéder aux universités, aux lieux de pouvoir, etc. Ben, on leur donnait le jardin, la nature, les forêts. Mais aujourd'hui, cette connaissance, ce savoir-faire, cette expertise qu'elles peuvent avoir de la forêt, de l'eau, de l'utilisation des sols, de l'alimentation, hein, en Afrique, c'est 80% des ressources vivrières qui sont faites par exemple par les femmes. En Inde aussi, c'est elle qui s'occupe des bois et des petites forêts, donc pour faire le feu, pour faire cuire les aliments, on dit que les femmes sont en première ligne, c'est l'expression écoféministe, c'est-à-dire qu'elles sont en première ligne aussi des dégradations. Quand vous avez des sols autour du lac Tchad, par exemple, qui s'assèchent, bah, ce sont les femmes qui sont là et qui peuvent plus faire à manger, qui peuvent plus procurer les soins d'hygiène à leurs enfants, à leur famille. Quand par exemple le mouvement Chipko Andalan en Inde, je pense à ces femmes, on leur dit on va privatiser les forêts et elles s'opposent aux experts forestiers en entourant les arbres, en disant non, si vous coupez nos arbres, on ne pourra plus faire à manger, on ne pourra plus s'occuper, protéger, les sols vont dévaler, les arbres qui retiennent les sols, tout ça va s'effondrer, eh bien elles ont obtenu gain de cause. Donc cette expertise-là, cette force de des femmes qui sont dans le réel, j'appelle ça l'écologie du réel et non pas une écologie de bureau, elles sont là, elles sont aux prises avec ces éléments qui se dégradent, elles constatent déjà les conséquences des pollutions et des dégradations et la plupart du temps elles réagissent. Et c'est ça qu'on observe aujourd'hui dans les mouvements de justice sociale et écologique, c'est que au lieu de rester bouche bée passive, eh bien elles montent des mouvements, elles se forment en réseau, donc c'est les sœurs, la sororité, c'est la solidarité entre femmes. Elles se créent des réseaux où elles essayent d'obtenir à la fois des droits sur le sol pour pouvoir gérer ensemble, en bien commun, en association, et s'opposer aux experts, s'opposer aux destructions, et même aller plus loin en guérissant la nature. Je citais rapidement Wangari Maathai, qui est un exemple pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes femmes et de femmes à qui je peux parler de ces sujets, parce qu'elle a replanté 51 millions d'arbres au Kenya. Ce faisant, évidemment, l'eau est revenue. Les conflits entre les habitants et les villageois se sont atténués, puisque les habitants pouvaient avoir des revenus liés à ces arbres, faire des petites sculptures, les vendre aux touristes et avoir un peu plus d'argent. Et donc, ça a créé un climat pacifié qui fait que le fait de replanter des arbres, ça a ramené la paix dans les villages. Et c'est pour ça qu'elle a eu le prix Nobel de la paix au Wangari Maathai. Et aujourd'hui, sa fille, Wanjira Maathai, a créé un centre pour la paix. Donc, vous voyez, il y a des liens très, très forts aussi entre la nature, la protection de la nature et évidemment la paix. À l'inverse, dans des pays où les environnements sont dégradés, bien sûr, ça crée des conflits. On parle des guerres de l'eau, mais pas seulement. Donc, il y a on voit les personnes qui sillonnent le monde se rendent très bien compte que dans les pays où l'environnement est dégradé, détruit, pollué, il y a un climat de méfiance, d'hostilité très qui mène au conflit, alors que dans les pays qui ont su, où les habitants ont su garder des liens harmonieux et en équilibre, comme disait Artus Bertrand, même fragile avec la nature, avec le vivant, eh bien, ça crée des lieux où les personnes sont plus heureuses, elles ont un sentiment de satisfaction, elles voient un sens dans leurs activités. Voilà, ça crée du bonheur aussi entre les personnes. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, l'écoféminisme, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que il revalorise à la fois les droits des femmes et les droits de la nature. Selon ce principe que vous avez très bien énoncé, qui est que l'oppression de la nature et des femmes ont la même origine, c'est-à-dire une volonté de contrôle et de mainmise. Donc moi qui n'étais pas féministe, j'ai découvert tout ça, j'ai relu Simone de Beauvoir, j'ai lu beaucoup les écoféministes américaines qui sont très engagées, et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas transposables bien sûr, mais que en l'occurrence relier nature et culture, corps et matière et esprit, voilà, aller au-delà de ces dualismes qui nous enferment et qui ont permis de hiérarchiser, parce qu'après avoir fait une distinction entre nature et culture, vous imaginez bien que c'était pas la nature qui était au top, et de même qu'entre les hommes et les femmes, c'était pas entre principe féminin et le principe masculin, après avoir hiérarchisé ça, bien sûr, le principe féminin était bien inférieur au principe masculin. Donc aujourd'hui, on est sur une complémentarité, on se rend bien compte chacun que le principe féminin et masculin dépasse les genres. Vous avez autour de vous certainement quand même deux hommes, c'est ça ?
Exact, deux hommes, deux femmes.
Je n'ose plus prendre la parole, là, d'ailleurs.
Tout le monde dort.
non, on est très attentifs, mais on a peur de prendre la parole.
Le principe masculin et le principe féminin nous traversent chacun de nous. Donc voilà, on le sait. Et on sait que c'est le yin et le yang, et que dans la nature aussi, on est sur des terres de contraste et d'opposition, parce que la nature n'est pas que bonne et douce et bienfaisante. On sait aussi qu'il y a des cataclysmes, que c'est très destructeur. Donc cette histoire d'écoféminisme, elle est intéressante sur le plan de la justice et des revendications et de la solidarité entre femmes qu'elle porte, mais elle est aussi intéressante sur une vision du monde non plus dualiste, non plus binaire, plus subtile et plus poétique, parce que quand Star Hawk, qui est une figure de l'écoféminisme, se bat, ben elle a recours à la fois à la magie et à la sorcellerie et à la politique. Et c'est ces femmes qui dansent autour du Pentagone dans les années 80 habillées en blanc pour marquer vraiment une image et contester le pouvoir. Quand elles font des manifestations, les écoféministes américaines, elles dansent, elles font des rituels, elles se relient à la terre, donc elles relient aussi une dimension spirituelle à la dimension politique. Et même s'il ne faut pas tout mélanger, je pense que c'est très intéressant de donner un grand coup de gouvernail et de revenir à une dimension aussi sensible, et même dans nos engagements citoyens. Voilà, que ça soit moins sec, moins, vous voyez ce que je veux dire, moins violent.
Plus doux.
Moi, j'aimerais profiter plus de doux. Ce que vous venez de dire, parce que je suis très curieuse de savoir si votre souci de l'environnement est arrivé par un déclic, une rencontre ou autre, ou que vous êtes tombée dans la marmite de l'écologie toute petite.
Alors, je suis tombée dedans tout de suite, mais je l'avais oubliée. C'est-à-dire qu'en fait, petite, on me l'a rappelé après, je passais vraiment beaucoup, beaucoup de temps dans la forêt, dans les arbres, à marcher seule, à contempler la nature. Et je l'avais oublié jusqu'à ce que je fasse un stage d'éco-psychologie, qui est encore un sujet, mais qui permet de nous relier, nous, à la grande nature extérieure, à travers tout un tas de rituels que Joanna Macy appelle le travail qui relie, pour nous relier à la nature. Et là, ce souvenir enfoui de mon contact personnel avec la nature a ressurgi alors que j'étais déjà engagée dans ces questions d'écologie depuis une dizaine d'années. Et puis après, j'ai rencontré Nicolas Hulot, j'étais très jeune, et j'ai commencé avec lui. Cher Nicolas Hulot, je voudrais travailler avec vous, et il m'a embauchée. J'ai la chance. Et puis après, c'est vrai que j'ai de rencontre en rencontre, même Artus Bertrand, tout ça, je les ai rencontrés. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une expérience de la nature, même en tant que journaliste, de ne pas se contenter de faire des enquêtes. Enfin, moi, ça m'a jamais... J'ai toujours voulu aller dans la nature, faire construire une maison, aller marcher, faire des jeûnes, aller dans la forêt. J'en ai un besoin physique. Mon travail n'est pas uniquement mental et intellectuel. Et c'est pour ça que ça me comble. Et que quand je suis très en manque de nature. Je suis ravie de vous savoir dans les bois. Mais moi, je suis à Paris et on n'a pas tellement de nature ici. Et ça nous assèche un peu.
En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir mis en lumière aussi, dans ce film, l'apport de la nature sur la santé, d'être allé, de nous avoir fait découvrir ces études qui montrent ce lien de causalité entre santé et nature, et puis aussi d'avoir mis en lumière ces féministes, ces femmes qui font avancer les questions écologiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Donc, je rappelle, votre livre « Sœurs en écologie » est paru aux éditions La Mer Salée. Et puis, votre film « Natura » est diffusé prochainement. Vous allez organiser une série de projections en France et en Suisse. Est-ce que vous avez déjà des lieux où votre film sera projeté? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette tournée?
Alors, c'est gentil, oui, le film a été diffusé sur Planète Plus, Canal Plus, et là, on va le sortir au printemps, on va le sortir du bois, c'est le cas de le dire, et on veut faire une tournée citoyenne. Donc, toutes les forces sont, tous les appels, toutes les aides sont bienvenues. On a une page qui s'appelle Natura le film sur Facebook, et on va aller là où on nous demande. On a déjà, sans doute, on va aller à Lausanne, en Suisse, je ne sais pas encore quand. À l'invitation, sans doute à Lausanne. Et ensuite, on a d'autres projections qui vont être organisées dans le sud de la France, en Bretagne, là où les gens vont nous demander, mais vous pouvez aller sur Natura le film et faire ces demandes. Et il y aura quelques dates en Suisse. Donc, peut-être que vous avez un site internet ou sur votre émission que vous pourrez, où on pourra vous donner ces informations. Je ne sais pas.
Avec plaisir, on peut être en contact, bien sûr. Oui.
Donc, si vous êtes un festival, si vous êtes, je ne sais pas, une association de quartier, si vous avez envie de diffuser ce film, contactez...
Des hôpitaux, des écoles, voilà.
Ok, contactez Pascal Derme. Ouais. D'accord, voilà. Très bien. Alors, je crois que le message est lancé. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. C'était vraiment très intéressant. Et là, ça me donne envie de courir en forêt tout de suite, là, maintenant.
Dans la nuit.
Ouais, un peu sombre, là, quand même. Hein. Cela dit, il n'y a plus de loup depuis longtemps, donc tu peux y aller.
Merci beaucoup, Pascal, d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
C'était vraiment un plaisir, une riche soirée qu'on a passée en votre compagnie. Merci beaucoup pour le film que je me réjouis de pouvoir partager avec d'autres. Je me réjouis que beaucoup de monde puisse le voir, parce que je pense que votre film accompagné d'un autre documentaire, L'intelligence des arbres, je pense que ça permet un basculement par rapport à une certaine prise de conscience de notre rapport au végétal, des choses qu'on ressentait, mais qui sont maintenant démontrées par les scientifiques. Dommage qu'on doive passer par le côté scientifique pour pouvoir démontrer ce que l'on ressent, c'est-à-dire qu'on n'a plus confiance à notre ressenti, notre société actuelle, mais si c'est par là qu'il faut passer, c'est bien, et je pense que là, vraiment, ça permettra à beaucoup de personnes de pouvoir se réapproprier aussi la forêt, la nature, et de pouvoir simplement vivre mieux grâce à vous aussi. Merci beaucoup.
Et moi, j'ai juste envie de dire encore merci pour votre excellent sujet de film, parce que grâce à vous, enfin, je ne sais pas grâce à vous, mais je pense que ça fera une bonne goutte... une bonne flaque dans l'océan, mais les scientifiques nous ont amené les médics, et maintenant, si les scientifiques nous ramènent la forêt, je trouve que c'est très bien.
Ouais. Pascal Derme, merci beaucoup.
Exactement. Merci à vous. Bonne soirée, merci de m'avoir invité.
Très belle soirée. À bientôt.
À bientôt. Merci.
Au revoir, tout le monde.
Bye-bye.
Au revoir.
Au revoir.
Et puis nous, on va se quitter avec notre traditionnel agenda qui conclut nos soirées de La Chaussure Rouge en radio. J'ai quelques petites dates ici, sous la main. Donc, entre autres, il y a des conférences qui ont lieu prochainement.
Oui. Alors, l'agenda n'est pas très fourni ce soir.
Oui, mais j'ai quelques petites choses sous la main.
Et tu as quoi
Là, j'ai par exemple le 14 février à 20h15 à l'Ola Professionnelle. C'est pourquoi manger local est loin d'être idéal. C'est à Aigle que ça se passe et c'est organisé par le Cercle des sciences naturelles du Chablais.
Au lieu de manger des chocolats industriels pour la Saint-Valentin, allez à une conférence. Est-ce que c'est romantique? Lulu, il faut que tu rendes ça romantique.
Ouais, pourquoi pas, tu distribues des roses à la sortie.
Bah écoutez, je viens de passer une soirée là, terrible, là, avec toutes ces filles autour de moi.
Pas de fleurs coupées.
S'il te plaît.
Pas bien.
Ouais, alors tu peux les prendre en pot. À Neuchâtel, c'est le 19 février prochain qu'il y a conférence également à 20h30, toujours la même. Pourquoi manger local est loin d'être idéal. Cette fois-ci donc, c'est à l'hôtel du Pérou, à la salle de l'Académie. C'est organisé par le club Soroptimiste. que je ne connais pas d'ailleurs, le club Sourds Optimistes.
Un grand club de dames d'ailleurs.
D'accord, donc c'est à Neuchâtel. Alors c'est particulier parce que c'est à l'hôtel du Pérou, qui est d'ailleurs plutôt réputé pour sa cuisine.
C'est chic.
Qui à mon avis n'est pas spécialement bio.
Ni local. Mais très bonne quand même.
Bon, bah, je crois que j'ai rentré là parce que j'en peux plus.
Alors, fin de cet agenda avec un autre rendez-vous écologie entre désinformation et intox. Comment y voir clair? Alors ça, c'est une qu'on ne sait pas encore. On pourra aller la découvrir à Écublanc, toujours avec notre ami Lucien. C'est le 21 février prochain à 14h30 au centre socio-culturel, la salle Fédéraire. Faut se baisser, hein. Il y a des balles jaunes qui volent bas là. Et c'est organisé par les plus de 55 ans d'Écublanc. Voilà, pour les prochains rendez-vous, vous trouverez également plus d'informations sur le fameux site lucien.lu. Et nous voici donc à la fin de cette magnifique soirée. Alors pour la forêt, ben c'est quand vous voulez, hein, vous y allez quand vous voulez, par n'importe quel temps, par n'importe quelle heure ou saison.
Hein. Apparemment, c'est à consommer sans modération aucune.
Ah ouais, là vous pouvez y aller à fond, vous ne risquez rien, à part peut-être un peu de dépendance, et franchement, c'est pas trop grave.
Oui, c'est même, ça fait même beaucoup
un
de bien.
Un rhume peut-être.
Éventuellement.
La forêt, elle nettoie le rhume, elle le soigne.
Ah, alors ça,
je sais pas.
Je vous laisserai tenter la chose, je sais pas. À moins 15, j'en sais rien. Rendez-vous le 4 mars prochain avec Isabelle Delannoy, qui sera notre invitée. Je vous réfère au site de la chose sur rouge en radio.net pour avoir un petit peu le déroulement de cette soirée et la future bande-annonce qui sera posée sur le site pour vous en dire plus.
Oui, on découvrira l'économie symbiotique. C'est une belle manière, c'est l'idée de aussi rentrer maintenant dans des solutions. Ça fait longtemps que l'on parle d'écologie, que l'on parle de ce qui va moins bien, des projets positifs. Et là, l'idée, c'est de se pencher vraiment sur maintenant l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et bien, on le sait, n'est pas forcément un peu fâcheuse pour nos vies. Il s'agira de découvrir une économie symbiotique qui nous permet justement de voir quelle forme d'économie pourrait être demain.
Parfait. Rendez-vous donc le 4 mars. On se réjouit. Dès 20h, nous y serons tous, en principe.
Oui. Ariane, tu seras parmi nous encore ?
En principe.
Oui, parce qu'Ariane va voyager un peu.
Oui, je repars. Je repars prendre la route.
Prends la route. Oui. Par la forêt. Tu commences par la forêt, évidemment. Ça va de soi. Ça va de soi. Très beau mois de février à vous tous. Profitez bien d'aller vous aérer et de profiter de la neige, évidemment, pour ceux qui en ont. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc le 4 mars prochain, dès 20h, pour un autre rendez-vous et une autre soirée de La Chose sur Rouge en radio. Rendez-vous
merci
le mois
Patrick.
Prochain.
Bye bye.
Salut, bye bye.
Ciao,
salut
bonne
à tous.
Soirée.
Bye bye.
Merci, bye bye.